Bonjour à tous qui nous rejoignent sur la radio Bintou Terra et je suis une élève en classe de seconde au lycée Raoul Follereau. Je suis en compagnie de Élise Ramillon, également en classe de seconde, mais je vais laisser Élise vous expliquer la raison de notre présence dans les studios de Bac FM.
Bonjour, alors nous nous retrouvons de nouveau pour une émission spéciale Fête de la Science, puisque c'est la 24e édition de cette manifestation qui a lieu dans toute la France avec pour objectif de mettre la science à la portée de tous, petits et grands.
Effectivement, et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Kamal Amani, qui est enseignant-chercheur au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne de Dijon.
Bonjour.
Monsieur Amani, bonjour.
Bonjour.
Selon vous, quel est l'intérêt majeur d'une manifestation comme la Fête de la Science?
Alors, ce genre de manifestation, c'est très important parce que c'est l'occasion pour, en particulier vous, les plus jeunes, et puis aussi le grand public de façon générale, parce qu'il n'y a pas que dans les écoles, c'est aussi dans plusieurs endroits, d'en savoir un peu plus sur les sciences, de savoir tous les domaines de la science, parce que souvent, on a l'impression que les sciences, c'est que les sciences dures, c'est-à-dire les maths, la physique. Donc là, on voit un plus grand panel. Donc pour vous, ça vous permet de savoir ce que vous pourrez faire plus tard. Et puis de façon générale, ça permet d'apprendre des choses sur les sciences qu'on ne connaît pas forcément, de découvrir de nouvelles choses, vraiment beaucoup de sciences. Donc c'est vraiment la chance de pouvoir découvrir des choses qu'on ne connaissait pas avant.
D'accord.
Participez-vous à d'autres événements permettant de promouvoir les sciences ?
Alors oui, j'ai participé récemment, fin septembre, donc le 25, il y avait la Nuit des chercheurs à Dijon, donc c'est un événement qui a lieu tous les ans, qui maintenant est au niveau européen, et donc j'ai participé à cette Nuit des chercheurs sous forme d'une conférence que j'ai refaite ici, à Lumière et Cinéma, mais aussi en soirée pour présenter un peu mon domaine de recherche. Et je participe aussi plus généralement à Dijon à l'Expérimentarium, qui est un projet où les chercheurs rencontrent le grand public. Et je suis aussi porteur du projet Année de la Lumière en Bourgogne, puisqu'on est en 2015 et c'est l'année mondiale de la lumière. Et du coup, avec des collègues de l'Université de Bourgogne, on a essayé de promouvoir cette Année de la Lumière partout, dans toute la région. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là, même si c'est aussi la fête de la science. Et puis, j'aime beaucoup la vulgarisation, parce que justement, je pense que c'est important que tout le monde sache ce qu'on fait, nous, dans les laboratoires, entre autres.
Oui. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de devenir chercheur en physique et la nature des recherches que vous effectuez ?
Alors, c'est une question compliquée, mais... Pourquoi j'ai fait de la physique ? Alors, je pense que chacun a ses propres raisons. Pour moi, dès le niveau scolaire, j'ai toujours apprécié la physique, parce que pour moi, la physique, c'est ce que c'est vraiment, c'est-à-dire, c'est essayer de comprendre la nature. Et ça, je pense que vous ne me contredirez pas, tout le monde. Et quand vous voyez un événement dehors, vous aimeriez comprendre. Quand on voit une tempête, quand on voit n'importe quoi, on essaie de comprendre. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé dès le départ. Et donc, j'ai suivi la voie de la physique, physique-chimie. Puis, à l'université, là, je me suis plus orienté physique pure. J'ai su rapidement... Alors, pour moi, pour savoir si on aime la physique ou pas, c'est est-ce qu'on est curieux ou pas, tout simplement. Enfin, ça se résume à ça. C'est-à-dire que pour être chercheur, de façon générale, il faut être curieux. S'il y a des choses qui vous posent des questions, alors vous êtes fait pour ça. Alors, vous m'avez posé une question aussi sur le parcours, c'est ça ?
Oui. Alors, les recherches que vous effectuez.
Ah oui, les recherches que j'effectue.
Voilà.
Donc là, les recherches que je fais, donc, c'est de la physique. Alors bon, physique, c'est beaucoup de choses. Ça peut être l'infiniment petit, donc la nanotechnologie, par exemple, ou les atomes, ou l'infiniment grand, l'astrophysique, des choses comme ça. Alors, moi, mes recherches, c'est en optique. Alors, l'optique, c'est tout ce qui a trait à la lumière. Et donc vous connaissez les lunettes, on parle d'opticien par exemple, mais bon, moi c'est pas ça. C'est à la fois l'optique dans les fibres optiques, c'est-à-dire qui servent entre autres à faire fonctionner Internet, hein, et dans les nanoguides. Alors ça c'est un peu plus complexe, mais disons que l'idée c'est de remplacer des composants de la vie de tous les jours qui sont sous forme électronique en composants à base de lumière. Voilà.
D'accord. À quoi ressemble une journée type dans votre travail?
Alors, Déjà, je ne suis pas que chercheur, je suis enseignant-chercheur. Du coup, dans ma journée, il y a une partie de l'enseignement. Donc, j'enseigne à l'université à Dijon, de la physique. Donc, des choses que vous pouvez connaître, un peu de mécanique, du point ou des fluides, ou bon, la relativité, choses comme ça. Bref, il y a plein de choses. Et donc, il y a une partie recherche. Et cette partie recherche, alors bon, disons, admettons, une journée type, j'ai cours de 8h à 10h avec les premières années, de 10h à midi, je vais essayer de faire concevoir une expérience. Donc ça, mm-hmm. c'est dans un bureau, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire, ouais. on va manger, et l'après-midi, on revient. Et donc, bon, si j'ai pas d'enseignement, je vais au laboratoire. Parce que bon, il faut, pour faire des expériences, il faut du matériel, donc on est à le laboratoire, et je fais mon après-midi d'expérience, en espérant obtenir un résultat, mais souvent il faut quand même plus d'une après-midi. Hein, la recherche, ça prend beaucoup de temps.
D'accord. Pouvez-vous nous décrire votre parcours après le bac? Qu'est-ce qui vous a motivé durant vos études?
Alors, après le bac... Donc, je suis à l'université donc pendant, pour faire la licence, c'est-à-dire les trois années, les trois premières années. Après, un master, c'est-à-dire les bac plus 4, bac plus 5. Donc, et après, pour être vraiment un docteur, un chercheur, il faut faire une thèse de doctorat qui dure 3 ans. Alors, pour être chercheur, de façon générale, il faut forcément cette thèse de doctorat. Mais par contre, sur les 5 premières années, vous n'êtes pas obligé de faire la fac, quoi, l'université, vous pouvez faire une école d'ingénieur, par exemple. Mais après le bac plus 5, pour avoir le titre de docteur, il faut passer par une thèse. Alors, par contre, on dit bac plus 8, mais en fait, les 3 dernières années, les 3 années de thèse, c'est pas vraiment des études. Au sens que vous faites de la recherche comme un chercheur normal. C'est juste que vous êtes encore étudiant parce que il faut bien sûr apprendre les techniques, voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez le titre de docteur, et donc après ça, moi je suis parti à l'étranger, au Royaume-Uni plus exactement, pour faire de la recherche, hein, puis voir comment ça se passe ailleurs, améliorer l'anglais, parce que les recherches et les sciences, il y a beaucoup d'anglais. Oui. Et puis après, j'avais le souhait de revenir en France, et donc là, il faut passer des concours pour avoir un poste de maître de conférence, et voilà.
D'accord.
Lors de votre conférence réalisée ce matin, vous évoquez les liens entre la lumière et le cinéma, et en particulier les fantasmes technologiques dans les films en lien avec la science.
Oui.
Pourriez-vous nous expliquer à nos auditeurs quels sont ces fantasmes technologiques?
Alors, sans refaire la conférence, ça va durer longtemps. En fait, dans la conférence, la première partie, c'est autour des lasers. C'est... Pour expliquer ce que je veux dire par fantasme, c'est vraiment qu'une technologie est fabriquée dans un laboratoire, elle n'est pas connue du grand public, et le cinéma, lui, s'intéresse à ce genre de choses, et va le mettre au cinéma, et tout de suite va créer une idée autour d'une technologie, comme le laser. Ça a apparu au cinéma, avant que le grand public le connaisse, et tout de suite, dans le cinéma, ça a été présenté comme une arme, comme quelque chose de dangereux. Et donc, le grand public, tout de suite, associe le mot laser à dangereux, à armes, voire extraterrestres. Ouais. Et c'est ça qui crée le fantasme. C'est-à-dire que, et ça, ça marque les esprits. Encore aujourd'hui, on parle du laser de la mort parce qu'il y a des films, avant, on parlait de ça. Alors qu'aujourd'hui, vous savez bien que le laser, c'est médical, ouais. ça sert pour les opérations, pour les yeux. Nous, on l'utilise tous les jours en recherche parce que c'est vraiment un élément essentiel de nos recherches. Internet fonctionne grâce à des lasers, entre autres. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de bien, mais... Le cinéma, quand il s'empare d'une technologie, il en fait ce qu'il veut, puisque les gens ne le connaissent pas. Et du coup, on a des fantasmes autour de ça. Donc c'est ça que, dans la conférence, j'essayais de présenter. Et puis bien sûr, bon, bah, le laser, maintenant, tout le monde sait que c'est pas dangereux, mais il y a d'autres fantasmes qui existent.
Oui, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, la science inspire toujours le cinéma, et dans quel domaine en particulier?
Alors... oui. La réponse facile, c'est oui, ça inspire toujours le cinéma. Je pense que le cinéma, comme je dis dans la conférence, on dit que c'est l'industrie du divertissement. Mm. Et donc, de ce fait-là, il y a besoin de faire rêver. Et il faut avouer que la science, quand on ne la connaît pas, ça fait rêver. C'est-à-dire que, par exemple, il y a plein de choses. Il y a des années, au Moyen-Âge, on pensait que c'était de la magie, des choses comme ça, vous voyez. Et puis, en fait, on se rend compte que ça peut s'expliquer scientifiquement. Donc, en fait, la science, sous certaines formes peut vraiment être impressionnant. On peut faire des expériences où on va faire léviter un objet. Donc il va être en suspension dans l'air sans que personne le touche. Mmh. Bah, si vous le voyez, vous allez être impressionné. Et donc forcément, le cinéma aime bien ce genre de choses. Donc ça inspire le cinéma. Alors qu'est-ce qui peut inspirer aujourd'hui le cinéma? C'est toutes les recherches, je l'ai dit pendant la conférence, autour des hologrammes. Mmh. Donc on en voit de plus en plus dans les films, parce que les hologrammes, c'est quelque chose qui fait rêver, parce que surtout les hologrammes 3D, des choses qu'on voit dans l'espace comme ça. Mais si vous voulez, ça commence à apparaître dans la vraie vie. Mmh. Vous-même, vous en avez parlé. Je sais que les nouveaux téléphones vont projeter des hologrammes. Alors après, est-ce que c'est des vrais, est-ce que c'est des faux? Ça, c'est une autre question pour les scientifiques. Donc, on va pas avoir ce débat-là. Mais disons qu'il y a les hologrammes. Et puis, je pense qu'on va avoir de plus en plus, en tout cas pour ce qui concerne la lumière, l'idée d'un ordinateur de lumière, ordinateur optique.
D'accord.
Avant de terminer cette interview, quels sont les conseils que vous pourriez donner à de jeunes lycéens ou lycéennes qui sont attirés par les sciences sans forcément avoir une idée précise d'un métier dans ce domaine?
Alors, lycéens qui sont attirés, qui n'ont pas une idée précise de ce qu'ils veulent faire, c'est ça que vous voulez dire, mais qui sont attirés. Alors, prendre des conseils, c'est toujours compliqué, mais je pense que si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes curieux, alors... vous avez l'âme d'un scientifique. Parce que la curiosité, pour moi, c'est la base. Après, tout le monde dira peut-être pas ça, mais pour moi, c'est vraiment la base. Il faut être curieux. Si quand vous voyez quelque chose, vous posez des questions, alors là, il y a déjà un petit quelque chose qui est là. Je veux dire, vous avez... aujourd'hui, je vois les jeunes, vous avez tous, beaucoup, en tout cas, ont un téléphone portable.
Ouais.
Et peu se posent la question de comment ça marche, etc. Et vous voyez, il a bien fallu qu'il y ait des gens qui travaillent là-dessus, qui développent ça. Ça prend du temps. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de technologies. Et finalement, parfois, on ne se pose pas la question, mais comment on en est arrivé là, etc. Et donc, si vous êtes curieux, si vous voyez un événement... Alors, je dis ça pour téléphone portable, mais ça peut être... Vous regardez le ciel, vous dites, mais pourquoi telle planète passe par là, etc. Bon. Alors, si vous êtes curieux, vous avez l'âme d'un scientifique. Si vous aimez faire des expériences, encore plus. Après... Faut sûrement se laisser le temps. Quand vous ferez vos choix, gardez le plus de possibilités, parce que si on spécialise trop tôt, ça peut être mauvais. Mais après, quand vous allez avancer, vous allez vite voir que... par exemple, pour moi, je voulais physique, chimie, maths, grosso modo. Je savais que c'était dans ce domaine-là. Une fois arrivé à l'université, alors bon, des fois, il faut choisir un peu avant, mais là, en faisant les premiers cours, en voyant ce qu'on allait voir, c'est assez rapidement que je me suis orienté vers la physique, parce que finalement, quand vous êtes collège ou là, au début du lycée, puisque vous êtes des secondes, tout ça, ça peut paraître se ressembler, mais en fait, quand on avance, on se rend compte qu'il y a vraiment des différences claires. Et donc, il faut se laisser un peu le temps, mais il faut quand même y réfléchir. Donc, si il n'y a pas de vrai conseil, si ce n'est que soyez curieux, parce que c'est important.
D'accord. Avant que vraiment ça soit la fin, j'ai une dernière question. L'imagination des réalisateurs au cinéma a presque sans limite, mais la science, elle, a-t-elle des limites ou pas?
Ah, ça, c'est une bonne question. Non, pas que les autres n'étaient pas bonnes. Mais, alors, l'imagination, je ne sais pas si elle a vraiment ses limites. La science... ça, c'est un grand débat. C'est pour ça que je vous dis que c'est une question compliquée. Parce que il y a plusieurs points de vue. Par exemple, pour les physiciens, il y a plusieurs points de vue. Il y en a qui disent, bon, on n'arrivera pas à aller plus loin. Et d'autres qui disent, si, on pourra. Alors, ma réponse, ça serait que c'est sans limite. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a plusieurs siècles. On va dire, il n'y a pas si longtemps, mais on va dire, il y a un siècle. Ce qui a été développé ces 50 dernières années n'était pas imaginable. Prenons le cas avant Einstein. Mmh. La relativité, vous allez avoir une conférence demain sur ça, n'avait pas été écrite, puisque c'est lui qui l'a énoncé. Et donc, bon, on pouvait se dire, c'est bon, on arrive au bout. Einstein découvre la relativité. Bon, les gens se disaient, bon, c'est que des calculs. Et au final, aujourd'hui, la relativité est utilisée tous les jours par des milliers de gens. À chaque fois que vous utilisez un GPS... il y a la relativité dedans. Parce que sans la relativité, GPS, il ferait une erreur de plusieurs kilomètres par jour. Donc, vous voyez, ça devient important. De la même manière, aujourd'hui, il y a la physique quantique, bon, qui a été aussi développée plus ou moins après Einstein. Et ça, c'est pareil, on ne pouvait pas du tout prévoir ce genre de choses. Et finalement, elle est apparue. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que à un instant T, à un moment comme aujourd'hui, on ne peut pas se dire, on ne peut pas avoir assez nous-mêmes, assez d'imagination pour dire tout ce qui pourra apparaître dans 100, 200 ans. Donc, si je dis qu'il n'y a pas de limite, bah, ça serait un peu faux parce que ça voudrait dire que je connais déjà l'avenir. Mmh. Et ben non. En fait, dans un siècle, il y aura sûrement beaucoup de nouvelles choses. Ça se passe sûrement avec une personne qui arrive à débloquer quelque chose. Et puis, on découvrira plein de nouvelles choses qui permettront plein d'inventions. Donc, je pense que ça n'a pas de limite. L'imagination, elle on n'a pas non plus beaucoup, mais malgré tout, on ne peut pas s'imaginer plus que ce qu'on pourrait concevoir. Ça veut rien dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avant qu'il y ait la relativité, c'était compliqué de se dire que justement que tout est relatif, alors que ça paraît évident aujourd'hui. Mais disons, c'est compliqué à répondre. Vous aurez compris que j'y vais moyen, mais non. L'important, c'est vraiment de dire que je pense qu'il n'y a pas de limite à la science. Même si il faut quand même, dans nos recherches en tout cas, il faut qu'on apprenne à se donner des limites parce que sinon, on peut se perdre dans ce qu'on fait. Hein. Et c'est important de se donner des limites et de se dire, bon, à un moment donné, il faut savoir passer à autre chose et se concentrer sur quelque chose de concret. Voilà.
D'accord.
Nous vous remercions, Monsieur Amani, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir participé à cette fête de la science au sein du lycée Raoul Follereau.
Merci à vous.
Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés sur BAC FM 106.1. Au revoir.